Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre, les rediffusions d'été, c'est tout de suite. Ernst Lubitsch, 1892-1947. Une vie, une œuvre, pour ses rediffusions, cette saison a décidé de jouer au jeu des pères. Père d'amis ou d'amoureux, un compère le samedi, sa moitié le dimanche. Hier, nous étions avec Joseph Roth. Alors aujourd'hui, Une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui aurait pu être son ami, celui qui a été cinéaste à Berlin, puis aux États-Unis, celui qui est passé du muet au parlant et qui a traversé l'Atlantique juste à temps. Ernst Lubitsch, sur les photos, pose rarement sans son cigare. Cheveux gominés, beau costume bien coupé, c'est un cinéaste installé qui pose pour la postérité. On le voit au travail, derrière sa caméra, sur les plateaux de tournage ou avec ses comédiens. Quand il pose seul, il est soit tout à fait souriant, soit tout à fait songeur. Sur une photo, il a gardé son chapeau et son regard est dans le vide. Il est absent, ailleurs, et ça n'a pas l'air très drôle. Sur d'autres photos, il rit aux éclats, avec Greta Garbo, à laquelle il arrache un sourire, ou avec Marlène Dietrich qui l'écrase entre ses grands bras comme une vieille copine. Mais ce qu'on voit surtout sur les images, c'est le plaisir évident qu'il a à jouer lui-même les scènes aux comédiens. Comme s'il incarnait à lui tout seul la foule de personnages qu'il a dans la tête. Alors écoutons ce documentaire de Christine Le Cerf, réalisé par Lionel Quentin, Ernst Lubitsch.
Attention, please, attention, we just came back from the coast. We brought a big director who was California's toast. He came from Germany and Mr. Zucker brought him fame. He went to Hollywood and revolutionized the game. He's the king of all directors, would you like to meet him now? Mr. Lubitsch!
Mr. Lubitsch!
Mr. Lubitsch, take a bow!
Le cinéma de Lubitsch en une formule. Qu'est-ce que je vais montrer? Qu'est-ce que je ne vais pas montrer?
Imperméable, parapluie, mouchoir, raquette et phonographe portatif.
Je voudrais un pyjama.
Très bien, monsieur.
Le bonheur en petite pilule et en pyjama de soie.
Je cherche un pyjama pour un monsieur à qui le pantalon seul suffirait.
C'est pour ça qu'on appelle cette comédie la comédie sophistiquée.
Ernst Lubitsch par Christine Le Cerf.
Ladies and gentlemen, I want you to meet Ernst Lubitsch, our director. The man who gave you a Garbo in Ninotchka who made you laugh. And who now gives you a Morgan who makes you laugh.
I hope.
Yes, I hope so too.
Ce qui est merveilleux chez Lubitsch, c'est que c'est très naturel. On y entre très facilement et à tous les âges. Parce qu'il y a, il y a un allant et il y a assez peu de choses cérébrales qui pourraient faire obstacle. Mais on y rentre très très vite.
On est comme, chez Lubitsch en particulier, emmené, Lubitsch nous guide, mais doucement, sans nous montrer les choses du doigt. C'est comme un chemin de velours que l'on parcourt sans heurts, guidé par simplement des galets, des petits cailloux discrètement posés le long de ce chemin de velours. Chez Lubitsch, on est en fait un peu comme emmené dans un train sur coussin d'air. On ne ressent aucune secousse, on n'entend aucun bruit de mécanique, aucun heurt.
Good evening, good evening. Good evening, Mr. James.
Good evening. How's the house tonight?
Completely sold out.
Advance sale?
Colossal.
Audience behaving?
Angelic.
Plotting?
Terrific.
Thanks.
C'est un complice, justement. C'est quelqu'un qui... Comme Lubitsch se positionne en entertainer, il a besoin de ce public, il a besoin de l'entendre s'esclaffer à un endroit, glousser à un autre, s'émerveiller. Et je crois qu'il y a un véritable plaisir chez Lubitsch à jouer avec le spectateur.
Tout commence à Berlin, dans un magasin.
Ich freue mich außerordentlich in Deutschland. Und speziell in meiner Geburtsstadt Berlin zu sein.
Qu'est-ce que ça vous fait, Manfred Flüge, d'entendre la voix de Ernst Lubitsch en allemand?
Moi, j'entends une voix berlinoise.
Es hat im Stummfilm lange Zeit gedauert, das Publikum an die Tatsache zu gewöhnen,
dass es Menschen sprechen sah, doch ihre Sprache nicht hörte.
Moi, j'entends tout à fait l'accent berlinois. J'ai connu pas mal d'émigrés allemands qui vivaient en Amérique depuis 30 ans, 40 ans plus. C'est tout à fait cette voix-là. On entend déjà un petit accent américain, mais il y a encore le fond est berlinois, tout à fait. Très émouvant. Oui.
Manfred Flügge, est-ce qu'on pourrait dire que Ernst Lubitsch est né dans ce qu'on pourrait appeler le sentier berlinois ?
Tout à fait. Sauf que le sentier s'appelle Hausvogteiplatz. C'est un de ces mots allemands difficiles. C'était l'endroit où étaient les magasins de mode qui, pour la plupart, étaient tenus par des Juifs qui étaient venus d'Europe de l'Est au cours du 19e siècle. Et dans les années 10, 20, début des années 30, c'était vraiment le centre de la mode. À l'époque des RDA, c'était un quartier en ruine, totalement en ruine, très romantique si on aime le romantisme des ruines, je m'en souviens bien. Et aujourd'hui, tout est nouveau. Il y a des ambassades, il y a des bâtiments modernes, mais puisque nous sommes à Berlin, il y a quand même un petit mémorial pour tous ces magasins juifs disparus, où il y avait une petite communauté juive. Et son père, Simon Lubitsch, est né dans un village en Ukraine, donc considéré comme russe. Et il avait gardé son passeport russe, et donc il n'était pas obligé d'aller à la guerre de 14, tout comme ses enfants. Donc Ernst Lubitsch n'a pas dû faire la guerre, mais à sa façon, il était un profiteur de guerre, comme on dit, puisque sa grande période de metteur en scène au cinéma a commencé pendant la Première Guerre mondiale. Sa mère était modiste et ça a pu l'influencer beaucoup. Elle est née dans un petit village du Brandenburg, à Vritzen, où il y avait une petite communauté juive. Et le décor, mais surtout les costumes, ont une importance capitale pour Lubitsch.
Lubitsch, on a l'habitude de dire que c'était le metteur en scène qui faisait les films les plus élégants.
N.T. Bean.
Cette élégance, en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était pour lui comme une sorte de rêve. Il ne faut pas oublier qu'il travaillait, enfin, où il a été élevé dans cette boutique de confection qui fabriquait des costumes élégants, mais lui ne les portait pas. On a toujours eu l'impression qu'il regardait les classes aisées, le luxe, pour se moquer d'eux, évidemment, mais avec un tout petit peu d'envie.
C'est dans If I Had a Million, si j'étais millionnaire, je crois, quelque chose comme ça, où il fait juste un sketch.
Pierre Le Gall.
Et dans ce sketch, Charles Laughton est un petit employé dans un bureau, mais vraiment minable. Il y a 50 personnes comme lui, qui travaillent à des bureaux comme lui, avec des machines à écrire comme lui. Et quelqu'un apporte une lettre à ce petit employé. Et quand il ouvre la lettre, là, sa tête se décompose. Et donc on sait à ce moment-là que Laughton vient de recevoir $1 million. Et il se lève, il monte un premier étage, un deuxième étage. Il passe par plein de bureaux de secrétaires jusqu'à ce qu'il arrive devant la porte du directeur général avec sa lettre, avec son $1 million qu'il vient d'avoir, qui va lui permettre de mettre fin à sa petite vie minable. Et là, il va rentrer dans le bureau du directeur. On s'attend tous à ce que va être la scène. Mais il s'arrête. Il se reprend et il se regarde dans la glace et il remet sa cravate.
Amen. Mr. Brown? Yes?
Et la scène s'arrête. Et ce qui est intéressant, c'est pas que ce qui est très Lubitsch, c'est pas que le personnage gagne un million, va voir son directeur et lui dit crotte. Mais c'est juste qu'avant de le faire, ce personnage quand même remet sa cravate correctement. Et c'est peut-être là dans le je m'en foutisme qu'il y a un acte d'élégance et une façon de se soucier de l'image qu'on va présenter en étant un Jean Foutre. Et c'est peut-être aussi un hommage là qu'il fait à son malheureux père, qui aurait dû vouloir le voir être tailleur comme lui, faire des costumes, et qui n'a pas pu le garder dans son entreprise parce que Lubitsch était vraiment trop mauvais et qu'il faisait tomber tous les vêtements. Il était c'était un incapable, quoi. Et c'est deux Lubitsch qui coexistent, c'est-à-dire c'est à la fois cet enfant juif un peu populaire et puis ce grand monsieur à qui tout le monde prête aujourd'hui l'élégance. Quand on dit Lubitsch, tout le monde parle toujours de la fameuse élégance et la touch. Donc c'est vraiment ça, c'est cette façon élégante d'être populaire qui le distingue.
Changement de décor.
Alors ce jeune Lubitsch est plutôt un cancre, n'aime pas du tout le sport, il n'est pas très assidu à l'école et il rêve très vite de devenir acteur.
Acteur, mais acteur de théâtre. Parce que le grand média de l'époque, depuis la fin du 19e, à Berlin surtout, à Munich aussi, c'est le théâtre. Parce que le renouveau de la littérature allemande s'est fait par le théâtre, par Gerhard Hauptmann, et par des metteurs en scène comme Max Reinhardt, qui était le grand magicien du théâtre de langue allemande, en Allemagne, à Berlin comme à Munich, mais aussi en Autriche, à Vienne, à Salzburg. Et donc tous les jeunes qui ne voulaient pas faire un métier sérieux rêvaient de devenir acteurs de théâtre ou actrices de théâtre.
Kathalin Porr.
C'est le moment où il fait aussi toute une série de rencontres. C'est-à-dire que le théâtre de Max Reinhardt, à ce moment-là, c'est un théâtre qui est un théâtre centre-européen, beaucoup plus qu'il n'est spécifiquement ou seulement berlinois. Et c'est un endroit où gravite toute une série de scénaristes, dramaturges, auteurs de théâtre, etc., réalisateurs d'ailleurs aussi de films, des Berlinois, bien sûr. Et bon, il rencontre par exemple Krali, hein, qui va être son premier scénariste et son premier grand complice. Il va rencontrer aussi des gens comme Ernst Weidar. Enfin, il rencontre toute une série comme ça de gens qui, à cette époque, jouent parfois au cinéma ou au théâtre dans les productions allemandes, qui écrivent, avec qui ils parlent. Il y a toute une vie, au fond, autour du théâtre de Max Reinhardt qui se déroule dans les cafés, dans les studios de cinéma et dans les différents théâtres, tous ces gens pour lesquels tous ces gens travaillent, c'est des gens qui ont à peu près le même âge. Voilà, il y a une espèce de nébuleuse, on va dire, qui se rencontre beaucoup à Berlin, mais qui court de Budapest à Vienne jusqu'à Berlin, en passant d'ailleurs par Paris pour certains d'entre eux.
La carrière d'acteur de Lubitsch est très brève et elle est un échec total. Il faut pas. Et c'était un échec parce qu'il avait une physionomie qui n'allait pas avec les grands rôles dans Rêve, les jeunes acteurs. Il avait une tête de guignol, en fait. Et il ne pouvait être qu'acteur comique avec la physionomie qu'il avait et dont il a joué dans ses premiers films en tant qu'acteur. Mais la carrière d'acteur de cinéma s'est arrêtée en 1920. Mais il faut voir d'où il vient. Il vient du slapstick. Il vient du comique de situation, du cabaret. Donc c'est plutôt des arts mineurs, si on veut, qu'il a su intégrer dans le cinéma pour en faire autre chose. D'ailleurs, il aurait pu, un peu comme Max Linder ou comme Chaplin ou Buster Keaton, inventer un personnage artificiel à partir de sa physionomie, de sa façon de se comporter. Il ne l'a pas fait. Il s'est arrêté en chemin, pour ainsi dire. Il a préféré faire jouer les autres selon ses idées.
Je me suis demandé, moi, quand même, ce que, en prenant l'exemple du portrait chinois, quel animal ce serait, par exemple. Et en fait, c'est le... J'ai trouvé quel animal c'est à mes yeux. Ce serait une de ces espèces de petits ratiers, de fox terriers, qui sont sautillants, qui sont espiègles, qui sont extrêmement vifs, qui sont extrêmement drôles, qui sont aussi bien à la campagne qu'en appartement, mais surtout, qui sont très très chics s'ils descendent en faisant une cabriole d'une de Lyon Bouton et d'une Dolage, une très belle voiture, aux côtés de Catherine Hepburn, par exemple. C'est le genre de chien qu'on peut avoir dans une très belle voiture de luxe, contrairement à plein d'autres chiens. Mais globalement, ce chien lui-même, c'est un chien qui peut vous ramener un rat énorme le lendemain, quoi. Et je crois que c'est peut-être ça qui est tellement touchant chez Lubitsch, c'est à la fois cette grande élégance. On peut le voir aux côtés de Catherine Hepburn, mais attention, c'est pas un lévrier, quoi.
La naissance du cinéma. Manfred Flügge, est-ce qu'on peut dire que Lubitsch est un homme qui arrive toujours à point nommé?
Tout à fait. Il est là où il doit être. Il est à Berlin, au moment où le théâtre est clos et prend sa pleine dimension. Il est là quand commence le cinéma. Et il est à Hollywood quand Hollywood devient le très grand Hollywood. Donc ça a l'air d'une carrière planifiée. C'est terrible. Alors que c'est un jeu de hasard aussi. Lubitsch est un pionnier qui est devenu un maître. C'est un précurseur qui est devenu un classique. Parce qu'il était là. Et il a accompagné tout le processus où il fallait inventer tous les métiers du cinéma. Qui n'existaient pas encore. Où le cinéma devait se différencier de la littérature et du théâtre. Et donc c'est lui qui était dans ce processus pour donner le rôle à la musique, au film muet, au geste, à l'image de la femme, au décor. Il a fait travailler un architecte, Hans Dreyer, venu de Munich, qui était formé par le Bauhaus et qui a inventé les décors et les constructions dans ses films.
Dans la loge de l'actrice Annie Porten.
Das war die Schlussszene von dem Film Anna Boleyn.
C'était la scène finale du film Anna Boleyn.
Aufnahme beginnen sollte, schon völlig versunken.
Depuis le matin, j'étais complètement plongée dans cette grande scène que j'allais devoir tourner. J'étais dans ma loge, revêtue de ma longue robe grise de pénitent, quand tout d'un coup, Lubitsch est entré, tout doucement, très délicatement. Il m'a pris les deux mains et m'a caressé le visage. Je lui ai alors demandé « On va répéter ?»« Non, ma petite Annie », m'a répondu Lubitsch.
«
On ne va pas répéter cette scène. Je te connais si bien. Je sais que tu feras ça très bien, même sans répéter. » Et puis il est reparti. Tout était techniquement au point. Lubitsch avait tout préparé. Les lampes étaient allumées. Il n'y avait aucune musique dans le studio ce jour-là. Tout était silencieux comme dans une église. Dès que je suis entrée, Lubitsch a fait un petit signe à son caméraman et j'ai commencé à jouer cette scène. Elle ne consistait en réalité qu'en une simple marche. C'était la marche d'Anna Boleyn entre deux gardes jusqu'à l'échafaud. Les portes de la prison se sont ouvertes. On apercevait tout au fond l'échafaud qui avait été dressé et le bourreau avec son épée qui étincelait dans le soleil.
Lubitsch donne une importance extrême à la beauté de ses films. À la beauté plastique, à la beauté de ses acteurs et de ses actrices, à la beauté des histoires qu'il raconte, et à la beauté visuelle de ses films, donc au décor, au costume, Tout ça fait partie de ce qui environne les personnages, c'en est aussi l'émanation. C'est-à-dire que si un personnage de Lubitsch est beau et foncièrement beau, je parle pas, même pas physiquement, mais si c'est un beau personnage, et si c'est un personnage qui exprime de beaux sentiments, pas forcément au sens convenu du terme, mais des sentiments admirables, on va dire, eh bien à ce moment-là, l'environnement de ce personnage va être beau et admirable. C'est ce que j'appelle, moi, l'expressionnisme lubitschien. C'est pas un expressionnisme au sens de la peinture expressionniste qui déformait les ombres, qui changeait les angles de prise de vue pour donner un malaise. L'expressionnisme lubitschien, c'est plus nuancé que ça. C'est que tout ce qui entoure dans un cadre, et même hors cadre, ce qui entoure un personnage est l'émanation de l'intériorité du personnage.
Alors vous reconnaissez la marque Cerisello?
Ah, je reconnais Emil Jannings et Paula Negri dans la Du Barry. Ah, ils jouent le rôle Louis XV et elle est Die Schöne Kleine. C'est comme ça qu'elle est montrée, la jolie petite. Le roi a envie de connaître la jolie petite. Et là, en fait, bon, on est dans un moment du film où il la connaît déjà assez bien, puisqu'il s'embrasse. Et que le roi est complètement captif, en fait, déjà. C'est ce que veut montrer Lubitsch, que finalement, la grande politique, ce n'est rien à côté, effectivement, de ce qui se passe dans une chambre à coucher. C'est peut-être le film le plus important de Lubitsch dans la période allemande. C'est celui qui lui a permis, on le sait, d'aller à Hollywood, puisque les studios américains ont adoré ce film, comme tout le monde d'ailleurs. Ça a été un succès vraiment international. Et Lubitsch, bon, qui est connu pour être le roi de l'ellipse, qui est connu pour être justement celui qui suggère, le fait là avec dès 1919, c'est quand même assez hallucinant. Il est bien plus loin que Lang qui vient de commencer à ce moment-là. Il arrive à concurrencer quelqu'un comme Griffiths. C'est pour ça qu'il va aller aux États-Unis, pour des bonnes et des mauvaises raisons, parce que les Américains pensent avoir trouvé le Griffiths européen, pas à cause de la comédie, mais parce qu'il arrive à manipuler. C'est un des aspects de l'héritage de Max Reinhardt. Il arrive à manipuler des tas de foules, des figurants. Et là, les gens se disent, tiens, voilà quelqu'un qui peut faire quelque chose du grand film historique, etc. Ce que Lubitsch gardera bien de faire quand il arrivera à Hollywood, évidemment. Et quelques mois après, le film passe aux États-Unis, mais Madame du Barry, donc, ça ne dit pas grand-chose. Donc, on le nomme, on lui donne un titre plus saillant. On l'appelle Passion. Et Passion va beaucoup plaire aux Américains. Et moins de deux ans après, Ernst Lubitsch devient un cinéaste américain.
Un Européen à Hollywood.
C'est un des rares à être venu d'Europe et avoir une carrière continue, du muet au parlant, du cinéma allemand au cinéma américain, avant-guerre, pendant la guerre, après-guerre, ou juste un petit peu après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est quelqu'un qui a survécu à beaucoup de changements et de transformations.
Il disait « ma morale, c'est s'adapter ».
C'est ça, il sait s'adapter. Pour certains, c'est une... ou dans la vie en général, c'est pas toujours une qualité, mais pour un cinéaste, c'en est une. Étant donné qu'il est le champion du comique de situation. Il faut s'adapter à la situation. C'est le slapstick de la vie, en quelque sorte.
Il voit très bien l'intérêt qu'il y a à être un cinéaste européen à Hollywood, déjà en un premier temps. Et cela se manifeste par les sujets traités par Lubitsch. Ce sont des comédies, quasi uniquement des comédies. Il y a deux ou trois mélodrames dans toute l'œuvre. Hein. Donc c'est, pour le reste, ce sont vraiment des comédies. Et la totalité de ces comédies sont des comédies qui ne sont pas des comédies, entre guillemets, américaines, mais qui sont des comédies européennes. Tous les scénarios sont tirés de pièces françaises, anglaises, hongroises, autrichiennes, allemandes. Toutes les actions se déroulent dans les grandes capitales européennes. Les personnages sont des Européens. C'est pour ça qu'on appelle cette comédie la comédie sophistiquée. Sophisticated comedy, ça veut dire que c'est pas américain. Sinon, ça veut dire que ça se passe en Europe. Et c'est extraordinaire. Il représente quasiment à lui tout seul pendant au moins 10 ans, sinon 15, ce qu'on appelle la comédie sophistiquée.
I'm tired of this hullabaloo.
You used to say you like dancing.
I love dancing, but with you.
Nouvelle facette de l'intelligence prodigieuse de Lubitsch, c'est la manière dont il a compris que ce genre-là allait être le genre qui allait lui permettre de réellement passer du muet au parlant. C'est une sorte de moment intermédiaire, l'opérette filmée, qui est un genre européen, qui est un genre allemand, mais que Lubitsch va acclimater à Hollywood. N'oublions pas que si le cinéma est devenu parlant, c'est que les gens avaient envie d'entendre des chansons. Et il y a l'idée brillante d'associer une chanteuse américaine, Janet McDonald, à un acteur et chanteur français qui parle avec un accent incroyable, Maurice Chevalier.
Ladies and gentlemen, I must talk to you. This is a very delicate situation. There is Colette, and here am I. And I know what you think. Oh, I know. How dare you? Believe it or not, we are married.
Darling!
That's for me. Sweetheart! That's for her. I'll be with you in a minute. That's for both of us. Vive la France!
Il arrive donc dans un contexte du cinéma américain où il n'a pas complètement trouvé en fait toutes ses bases. C'est-à-dire qu'il travaille avec plusieurs studios. Il fait la plupart de ses grandes comédies à la Warner. Il réalise avec In Old Heidelberg le prince étudiant, sa première collaboration avec la MGM où il reviendra très ponctuellement de temps en temps, mais il n'est pas encore l'homme de la Paramount. Et ce studio, qui va être le studio de Lubitsch, Lubitsch lui-même va être in charge of production, ça veut dire chef du studio, par intérim certes, mais en 1935 pendant un an, un étranger, un réalisateur, qui va être le patron d'un des grands studios américains, assumant donc cet intérim pendant un an en 1935, c'est un cas unique dans l'histoire du cinéma. Or, comment est-ce qu'il va arriver à faire son trou, entre guillemets, dans le parlant à la Paramount, eh bien, c'est justement par l'idée de cette sophistication. L'idée de cette sophistication, parce que le studio Paramount est le studio le plus sophistiqué, le plus européen, le plus ouvert aux artistes, le plus tolérant avec les écrivains. C'est à la Paramount que des scénaristes vont pouvoir passer à la réalisation à la fin des années 30, Preston Sturges et Billy Wilder, par exemple. Et c'est là qu'il va pouvoir réellement faire son trou.
That's not in the script. Mr. Greenberg, I hired you as an actor, not as a writer, understand? No, what does the script say?
I make an entrance.
And what do you say?
Nothing.
Then say nothing.
On sait que dans le bureau de Billy Wilder, il y avait, vous le savez, cette, en lettres argentées, qu'aurait fait Lubitsch. Hein, donc, c'est-à-dire que le maître, c'est le maître. Ça veut dire qu'il y a une demande d'exigence, que Lubitsch a fait les choses au plus haut niveau et que tant qu'on n'a pas trouvé une idée à la Lubitsch, ben finalement, cette idée n'est pas bonne. C'est le maître étalon.
N.T. Bean.
Lubitsch avait la réputation de ne vivre que pour son travail, de négliger sa vie privée, de ne participer à la vie mondaine de Hollywood que dans la mesure où ça servait son travail, c'est-à-dire que ça lui faisait rencontrer des acteurs ou des scénaristes ou des gens qu'il admirait, qu'éventuellement il allait solliciter pour faire ses films, mais tout ça était lié à son œuvre. Ça a un tout petit peu changé vers la fin de sa vie lorsque sa petite fille est née. Tout d'un coup, il s'est retrouvé père de famille. Je ne crois pas qu'il l'ait très bien géré, parce que c'était un père qui était beaucoup plus souvent sur les plateaux de cinéma qu'à la maison. Pas vivre sans musique, mais aussi sur un plateau. Lorsque Lubitsch se met au piano, c'est pour détendre l'atmosphère. Parce qu'un plateau, ça doit être concentré. Et concentré dans un but très précis. Et il y a une tension permanente avec des centaines de personnes qui œuvrent à la qualité d'un plan. Et pour Lubitsch, ce plan doit être parfait. Donc, entre deux prises, entre deux plans, voilà, on se met au piano, on joue des valses de Vienne ou des vieilles rengaines, et ça, il fait aussi ça chez lui, je pense, pour sa femme et sa fille. Ça fait partie d'une sorte de folklore qui vient, je pense, de l'Europe centrale, de quand il y a un truc qui va pas ou quand on se sent un peu tendu, on se met au piano et on se met à chanter des airs d'autrefois ou des airs de son enfance, et tout de suite, on se sent mieux. Je crois que Max Ophüls faisait de même. Dein Kuss hat mir den Frühling gebracht, denk an dich bei Tag und bei Nacht, denk an dich immer zu, all mein Träumen bist nur du. Und gehst du eines Tages von mir, geht auch meine Sehnsucht mit dir.
Lubitsch a voulu aller à Hollywood et Lubitsch a été heureux.
Christian Viviani.
Ça n'est pas quelqu'un qui a vécu le système hollywoodien comme une contrainte, bien au contraire. Et Hollywood se base, notamment l'Hollywood classique, je parle de l'Hollywood classique, hein, celui entre 1930 et 1950, grosso modo. Le Hollywood classique se base beaucoup sur un jeu de cache-cache. Je vous montre quelque chose et puis je vous le dérobe. Vous croyez avoir vu quelque chose, mais en fait, vous n'avez rien vu. Et ça, c'est le jeu idéal pour Lubitsch. Jouer sur l'allusion, sur le non-dit. Être perpétuellement stimulé par l'interdit. Are you staying out late tonight, darling? You ought to know how it is with these cabinet meetings.
Do you think it will last all night? Now, please don't bother me. J'aime tout dans La Veuve Joyeuse. C'est un miracle de bout en bout. C'est un film absolument merveilleux qu'on ne connaît pas assez, à mon avis. Et il y a un moment, en effet, dans ce film, c'est à la fin de la première partie qui se déroule en Marchovie, donc un royaume carpathique d'opérette, et où le personnage principal, le comte Danilo, interprété par Maurice Chevalier, et il traîne tous les cœurs après lui, personne ne résiste à Danilo, et la reine non plus. Darling, do you think it will take you all night? Good night, dear. La reine dit quand même au roi, mais... Est-ce que, chérie, tu vas en avoir pour toute la nuit, une fois, deux fois, trois fois? Bon, c'est un peu agaçant. Finalement, donc, le roi s'en va. Donc, on a la fameuse musique de Léa, papapa, papapam, papapam, donc, qui suit le départ du roi. Tout cela va être muet à partir de là. Le roi quitte les appartements royaux, passe devant un garde. Ce garde, on va s'apercevoir que c'est bien sûr Maurice Chevalier, donc le comte Danilo. On voit le roi commencer à descendre les escaliers. Pendant ce temps-là, Danilo, évidemment, ouvre la porte des appartements royaux et on comprend très bien que la reine attendait Danilo et la porte se referme et nous ne voyons pas où va
Maurice Chevalier, mais nous le devinons. Le roi continue à descendre les escaliers tout à fait tranquillement, on a toujours la musique de Léard, et le roi se palpe et s'aperçoit qu'il a oublié quelque chose. Le roi remonte les escaliers et là, suspense, on se dit « Mon Dieu, le roi va tomber sur Danilo, ça va être effroyable !» Scène typiquement Lubitsch, le roi franchit la porte et nous restons derrière la porte. Ça sert à ça. Ça va attendre, avoir du suspense, on se demande ce qui se passe. Le roi ressort très tranquillement. En fait, le roi avait tout simplement oublié son baudrier. Il prend son baudrier, recommence sa descente des escaliers, essaye de ceindre son baudrier et s'aperçoit, le roi est assez fort, que ce baudrier ne va pas, que ce baudrier, visiblement, est trop petit pour lui, que ce baudrier n'est pas son baudrier. Et là, effectivement, le roi comprend, le spectateur comprend qu'il a compris, et la musique, effectivement, s'accélère, le roi remonte, nous franchissons les portes, et nous avons une grande scène à trois, qui est un des dialogues les plus réussis, effectivement, de Lubitsch.
Please, I beg of you, control yourself. And you too.
I never shriek, Your Majesty.
Oh, my good name.
Your Majesty, may I make a suggestion?
What is it?
Let's fool them. Let's make a little conversation. Let's pretend to be social.
Right. Yes, I think that's a good idea.
A little more volume, Your Majesty. We're having a good time.
C'est quelqu'un qui non seulement s'est remarquablement tiré des problèmes du fameux code Hays, du fameux code d'autocensure, mais c'est quelqu'un qui, d'abord, y a trouvé un véritable stimulus. On pourrait dire, véritablement, on pourrait appliquer à Lubitsch la maxime selon laquelle l'art naît de la contrainte. C'est absolument vrai. Mais par ailleurs, il faut savoir que, historiquement, les gens du code Hays n'arrêtaient pas de citer Lubitsch en exemple. Hein. Savoir que lui, il arriverait à faire passer la situation scabreuse. C'était un exemple dans l'élégance, dans l'allusion, dans le fait de ne rien montrer qui soit choquant, qui soit vulgaire.
Ce qu'il sait faire, en tout cas, c'est mettre en place les conditions du plaisir. Et en plus, il le prend lui-même. Hein, c'est un homme du plaisir. C'est pas là pour le coup. Alors dans sa vie privée, c'est vraiment pas un homme de la contrainte. C'est tout le contraire. Hein, Lubitsch, c'est quelqu'un qui meurt en s'envoyant en l'air, alors qu'on lui avait dit qu'il fallait pas. Hein, c'est quelqu'un qui meurt en fumant un gros cigare. On lui avait dit qu'il fallait pas. Il a plusieurs infarctus. On lui avait dit d'arrêter de fumer, de faire l'amour, de boire. Il ne pouvait pas s'arrêter. Donc on voit très très bien que toute cette partie professionnelle extrêmement contraignante se paye dans la vie privée. Ou que ça marche dans les deux sens d'ailleurs. Hein. Et donc c'est quelqu'un d'extrêmement attachant.
Pierre Le Gall.
C'est ce personnage extraordinaire qui arrive dans Serenade 3, une jeune femme qui s'installe dans un wagon et qui voit deux hommes face à elle, qui dorment, qui ronflent, qui n'ont rien de très très beau à ce moment-là, et qui les dessine, parce que c'est son métier et sa passion. Elle les dessine pour se moquer d'eux. Elle ne les connaît pas, elle rentre dans leur wagon, et elle va déjà commencer à les caricaturer, à se moquer d'eux. C'est le premier contact qu'elle a avec ces hommes, c'est ça. Et ensuite, elle s'endort à son tour. Et c'est Gary Cooper qui va se réveiller béat parce qu'il sent... il a la main qui s'est posée sur la jambe de cette femme. Et donc, c'est la meilleure façon de se réveiller pour lui. Qui la découvre, qui découvre son carnet. qui regarde dedans et qui se découvre lui caricaturé avec son ami, et s'ensuit une scène d'engueulade dans ce train, parce qu'il s'agit de savoir si les hommes représentés sont ressemblants ou pas, si la caricature est ressemblante.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, vous trouvez que ça me ressemble?
Tout à fait.
J'ai l'air aussi bête que ça?
J'en ai peur.
Voyons, mademoiselle. Regardez ce nez.
C'est le vôtre. J'y peux rien.
Enfin, passons pour moi. Mettez-le lui. Vous l'avez bien arrangé. Mais ce n'est pas sa tête, ce n'est pas son crâne.
Je le vois comme ça. Et puis, comprenez, monsieur, que ceci est une caricature. Et dites-vous bien que le but d'un dessin ou d'une peinture n'est pas de reproduire une vulgaire photographie, mais de faire ressortir les caractéristiques d'un fasciste, vous selon la personnalité de l'artiste, même en les exagérant. Oh, nuts.
Da, 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 da. Well, baby. The name is Curtis.
May I present Thomas B. Chambers?
My name's Gilda Farrell.
Coming back to the subject of art.
Are you a painter?
Yes.
What did you say your name was?
Mais ce qui est vraiment
George
merveilleux, c'est qu'on a dans cette scène-là toutes les étapes, tous les raccourcis extraordinaires qu'il y a dans quasiment tous ces films. C'est-à-dire que les premiers contacts d'une femme avec des hommes, elle se moque d'eux. Premier contact de l'homme, il est déjà érotique, c'est-à-dire qu'il découvre la jambe de la femme avant de découvrir la femme elle-même. Enfin, tout ça, c'est des raccourcis qui font que Lubitsch est unique. On admet, tout est possible dans un film de Lubitsch.
Le triangle amoureux est évidemment au cœur des préoccupations de Lubitsch, tout simplement parce que ça lui permet la mise à plat d'une thématique qui est tout autre que futile, c'est-à-dire la thématique du choix. Les personnages de Lubitsch sont presque toujours dans un dilemme, et quand on y réfléchit, devant un dilemme crucial. Hein. Ninotchka doit choisir d'abord entre la Russie soviétique et le monde occidental, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ninotchka, elle doit également choisir entre un engagement qui est sincère de sa part et l'amour. Après, nous avons évidemment ces femmes qui sont entre deux hommes ou ces hommes qui sont entre deux femmes. Nous avons les films sur le refus de choisir, comme Serenade à trois, avec à la fin de sa vie cette morale qui est énoncée dans La folle ingénue. Hein, pourquoi est-ce qu'on a l'habitude de donner des noisettes aux écureuils? Et si un jour on avait envie de donner les écureuils aux noisettes, hein? Et oui, pourquoi pas, après tout. Donc c'est vrai qu'il y a derrière le côté très urbain, très raffiné des films de Lubitsch, il y a aussi une liberté de pensée très très grande.
Bonjour monsieur, vous désirez monsieur?
Un pyjama.
Si monsieur veut bien venir par ici. Nous avons aussi des articles en réclame dont vous pourriez profiter à des prix exceptionnels. Imperméable, parapluie, mouchoir, raquette et phonographe portatif.
Je voudrais un pyjama.
Très bien, monsieur.
Le début des débuts d'une comédie de Lubitsch, c'est le premier quart d'heure ou les 10 premières minutes de La huitième femme de Barbe Bleue. Le problème de la comédie, ce qu'on appelle la comédie sophistiquée ou la comédie loufoque hollywoodienne, on dirait aujourd'hui comédie romantique ou comédie sentimentale, c'est la vedette masculine et la vedette féminine, à un moment donné, il faut qu'ils se rencontrent. Et on sait que à la fin du film, ils vont terminer ensemble. C'est des contes de fées, ils vont se marier, voilà. Bon, comment faire pour montrer le héros et l'héroïne qui se rencontrent de façon pas attendue, de façon moins convenue, puisque de toute façon, quand on voit Gary Cooper et Claudette Colbert se rencontrer, on sait qu'ils vont tomber amoureux à un moment. Mais on sait qu'il faut qu'on attende une heure et demie de complications avant qu'ils terminent dans les bras l'un de l'autre. Donc, avec Billy Wilder et Charles Brackett, ces deux scénaristes, Lubitsch, il les fait travailler. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, Gary Cooper va arriver dans une boutique où on voit qu'il n'est pas dans son pays. Hein, il est sur la Côte d'Azur. Donc, il entre, il veut acheter un pyjama, mais il ne veut acheter que le haut du pyjama. Et donc, il y a tout un esclandre qui est fait avec le vendeur du magasin. Prétexte pour Lubitsch à faire gravir tous les échelons de la hiérarchie jusqu'au patron du grand magasin qui est en train de prendre son petit déjeuner au lit. Pour aller au téléphone, le patron en question sort de son lit. On voit qu'il ne porte qu'une veste de pyjama et il donne l'ordre de surtout ne pas vendre un pyjama avec uniquement la veste parce que il dit mais c'est inacceptable, c'est du communisme, dit-il, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Enfin bref, Gary Cooper n'arrive pas à acheter sa veste de pyjama. Et tout d'un coup, il y a une voix féminine qui se fait entendre et qui dit « Ah mais moi j'achèterais bien le pantalon tout seul ». Voilà comment Lubitsch et ses scénaristes résolvent la rencontre entre le héros et l'héroïne dans La huitième femme de Barbe Bleue.
Monsieur, la direction estime que si on vendait un pyjama sans le pantalon, cela créerait un précédent dont les conséquences pourraient être désastreuses. Notre directeur général regrette infiniment et vous prie d'être assez aimable pour voir notre collection de chapeaux de paille.
Vous allez dire à votre directeur général que si je ne peux pas acheter un pyjama sans pantalon...
J'achète le pantalon. Oui, je veux acheter le pantalon. Je cherche un pyjama pour un monsieur à qui le pantalon seul suffirait.
Si on considère les femmes chez Lubitsch, par exemple, ce ne sont pas de simples objets du désir. Ce sont des êtres d'une liberté absolue. Elles savent très bien ce qu'elles veulent, et souvent, c'est d'ailleurs elles qui dominent. C'est vraiment la femme qui choisit le milliardaire dans La huitième femme de Barbe Bleue. C'est la femme qui choisit d'avoir deux amants et qui l'assume et qui les essaye. Parce qu'elle, son cœur balance entre deux hommes, mais elle va quand même les essayer. Il faut quand même bien qu'elle se fasse une bonne idée. Et cette vision de la femme est prodigieuse. Il est dans l'époque où la liberté, jusque dans les années 50, est mise à mal. Et lui la prône avec une troublante facilité. 65 years. 65 years of useful service. Tous les personnages chez Lubitsch sont des gens capricieux qui veulent quelque chose. Tant qu'ils ne l'ont pas, le film n'avance pas, le film ne va pas. Comme cette espèce de bonne dans Clancy Brown qui fait de la plomberie et qui baisse ses bas, qui se retrouve sous les éviers de gentlemen à faire de la plomberie. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la gêne, qui prennent l'espace. Et si vous n'êtes pas comme eux, à ce moment-là, vous devenez un personnage intéressant dans un film de Lubitsch parce que vous êtes le pisseroir, vous êtes l'enquiquineur, vous êtes le coincé, vous êtes une espèce de faire-valoir pour souligner et pour donner encore plus envie de rencontrer des personnages libres.
Hooray! She did it, I saw it, it's running!
That's my birthday gift to your mother, Mr. Wilson. Mrs. Wilson,
nous invite perpétuellement à déchiffrer. Et pour cela, il nous offre une idée du spectateur que je trouve très très rare en fait. C'est-à-dire qu'il part toujours du principe que le spectateur est intelligent, qu'il va pouvoir le suivre. Il suffit de le guider. Et donc, c'est vrai que dès les premières images du film, il y a un jeu qui est proposé au spectateur. Et si l'on rentre dans ce jeu, j'ai l'impression que on y joue au même niveau que Lubitsch lui-même. C'est du moins l'impression qu'il finit par donner.
Rire, quoi qu'il arrive.
Oh, vous n'avez aucun sens de l'humour. Absolument aucun. Aucun grain de folie chez vous. Aucune gaieté. Qu'est-ce que ça peut bien avoir de drôle?
Comme disait Lubitsch lui-même, il ne faut jamais mépriser un rire. Le soir même de la nuit des cristals en 38, quand les synagogues ont brûlé en Allemagne. À Berlin, il y avait un théâtre juif où ce soir-là, on avait programmé une comédie. Et cette comédie, on l'a jouée. Et les gens, donc les juifs de Berlin qui ont compris que leur destin allait être très très dur, ils ont ri à cette représentation. Et ils avaient bien raison. Ils avaient bien raison. Il ne faut pas mépriser le rire. C'est une réaction humaine, une réaction de défense. Et en ce sens-là, il faut dire que Lubitsch avait raison de faire ce qu'il a fait.
At the moment, life in Warsaw is going on as normally as ever. But suddenly something seems to have happened. Are those Poles seeing a ghost? Why does this car suddenly stop? Everybody seems to be staring in one direction. People seem to be frightened, even terrified, some flabbergasted. Can it be true? It must be true, no doubt. The man with the little mustache, Adolf Hitler. Adolf Hitler in Warsaw when the two countries are still at peace and all by himself.
La liberté des films de Lubitsch, vous ne pouvez pas la retranscrire parce que cette liberté-là, elle n'a plus le même prix aujourd'hui. Comme vous n'êtes pas prêt à payer le prix que ces gens ont payé pour la liberté, vous ne pourrez pas la savourer de la même façon. Et je crois qu'on ne fait plus de films aussi frais, tout simplement parce que le monde a évolué. Et le monde était grave, le monde était lourd, et cette liberté, elle avait vraiment un sens.
Der Führer!
Et quand on songe que Lubitsch a pu faire un film comme To Be or Not To Be au moment même où l'humanité était en train de mourir à quelques milliers de kilomètres de là et qu'il en parle avec autant de liberté, autant de grâce, je crois que personne pourrait faire un film pareil aujourd'hui. C'est vraiment le pied de nez suprême. Il aurait pu faire quelque chose de dramatique, de mettre du sens, essayer de convaincre les gens, de faire quelque chose d'un peu propagandiste. Pas du tout. Il fait un pied de nez à Adolf Hitler. Et ça, je crois que plus personne n'oserait faire une chose pareille.
Moi, je ne le vois pas comme homme politique. Je crois qu'il était profondément apolitique, dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas un intellectuel de gauche engagé. Et si je vois bien, les critiques intellectuelles, juifs ou pas juifs des années 20, ne l'aimaient pas trop. Il y a une très longue liste de critiques, que ce soit Krakauer ou d'autres, ils l'ont toujours critiqué. Et plus tard, il était critiqué en Amérique aussi. On a mis très longtemps à comprendre vraiment qu'il s'agit de chefs-d'œuvre.
Café de Lutèce. Une table pour ce soir, au nom du comte d'Algout. Deux couverts, d'accord. Après l'opéra. Merci beaucoup, monsieur.
Mes respects, votre
Altesse. Bonsoir, Louis. Il y a un monde fou ici ce soir. Trouvez ma table près de la piste.
Tout de suite, votre Altesse. Suivez-moi, je vous prie. Le comte d'Algout m'a fait téléphoner dans l'après-midi.
Le comte d'Algout?
Oui, ce n'est hélas qu'une petite table, mais je peux apporter quelques chaises.
Non, 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 nous ne sommes pas avec lui.
Pourquoi ne pas aller dans une autre boîte? Il y a trop de monde ici.
Non, 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 je suis radieuse, quel chant! Je vais enfin apercevoir cette femelle bolchevique.
L'Europe est au bord d'une guerre épouvantable. Le monde va s'autodétruire. Et il s'autodétruit avec un goût de champagne, déjà. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a... Lubitsch, c'est le champagne, c'est les robes, ces robes qu'on est obligé de coudre sur les actrices parce qu'on ne peut même pas leur enfiler, des robes argentées. Enfin, ça a beau être des films en noir et blanc, il y a une couleur extraordinaire dans les films de Lubitsch, il y a une vie, il y a vraiment cette facilité, alors que le monde est vraiment au bord du drame. Et que lui est un acteur important là-dedans, puisque c'est un immigrant. C'est un homme qui, s'il n'avait pas eu cette liberté, cette envie de vivre, s'il n'avait pas été ce petit chien là qui fait des cabrioles et qui s'en va à droite et à gauche, il serait mort.
La touche finale.
How do you do, Mr. Van Cleef?
Good afternoon, Your Excellency. Very kind of you to receive.
Not at all. Oh, please, sit down.
Les années 40 étaient très très dures pour Lubitsch. Mais c'est là qu'il a fait les films les plus personnels. Comme Trouble in Paradise, comme Le ciel peut attendre, Heaven can wait. Ça, c'est des films qui contiennent des éléments personnels, des histoires personnelles, même si ça n'a pas l'air. Mais si on sait quelques éléments de sa vie, on retrouve, oui, un petit touch autobiographique quand même.
Comme un retour sur soi.
C'est un retour sur lui-même. Et c'était des films qui n'avaient pas de succès dans la salle, mais qui aujourd'hui sont des films d'une très grande valeur.
Goodbye.
Goodbye, Your Excellency. And thank you.
Good luck.
I'll need it. Down?
No. Up.
Dans l'un de ses derniers films, qui est Le ciel peut attendre, vous avez le personnage principal qui est joué par Don Ameche, qui, au moment de mourir, sentant la fin approcher, demande à ce qu'on lui change d'infirmière, et l'infirmière revêche est remplacée par une jolie blonde. Et évidemment, on ne le voit pas mourir, mais on voit la caméra qui s'éloigne de la porte de sa chambre sur l'air de La Veuve Joyeuse. Donc, et ça, c'est typiquement, je pense, l'image que Lubitsch aurait souhaité qu'on garde de sa propre mort. Et comme il est mort dans des circonstances jugées à l'époque peu respectables, il y a eu un voile discret qui a entouré les circonstances de sa mort. Et pour compenser justement cette mort un peu mystérieuse, ses obsèques ont eu lieu en grande pompe avec Janet McDonald qui a rechanté la chanson du film Monte Carlo qui s'appelait Beyond the Blue Horizon, au-delà de l'horizon bleu. Donc, et ça a été des vraies funérailles à la hollywoodienne, avec tout le monde était là. Et du coup, la mort de Lubitsch est devenue comme une Lubitsch touch. C'est devenu une sorte de mystère, de litote, de non-dit, qui correspond finalement assez bien à son cinéma.
Ernst Lubitsch. Avec le critique de cinéma Bean, le professeur d'esthétique Marc Ceruzuelo, les historiens du cinéma Cataline Porr et Christian Viviani, le témoin berlinois Manfred Flüge, le cinéphile heureux Patrick Gray et le spectateur complice Pierre Le Gall. Enregistrement Claire Levasseur, mixage Pierrick Charles, réalisation Lionel Quentin. Une émission de Christine Le Cerf. Épilogue.
C'est vraiment comme le cirque pour un enfant, je crois, où c'est des vrais cadeaux. Il y a une vraie générosité, il y a une vraie volonté d'apporter un sourire chez les gens qui est d'autant plus louable que ça s'accompagne de cette liberté et de cette façon extraordinaire de dire zut à tous les empêcheurs de tourner en rond.
Proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, lien, réécoute, podcast, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et le week-end prochain, nouveau jeu des pères, samedi Tolkien, auteur du Seigneur des Anneaux, et dimanche son ami de toujours Cliff Staple Lewis, l'auteur du Monde de Narnia, tous les deux réfugiés dans des mondes imaginaires.